En séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le 7 juillet 2008, Mireille Delmas-Marty de l'Académie des sciences morales et politiques a prononcé, devant ses confrères, une communication ayant pour titre « Le rôle du droit dans l'émergence d'une communauté mondiale de valeurs ». Retrouvons Mireille Delmas-Marty en salle des séances.
Je proposais de vous parler du rôle du droit, en effet, dans l'émergence d'une communauté mondiale de valeurs. Cette expression de communauté renvoie à des valeurs partagées en commun. Mais alors, comment oser parler de valeurs communes dans le climat d'affrontement, d'intolérance que nous connaissons? Et comment concevoir seulement les contours d'une communauté mondiale de valeurs par-delà la diversité des cultures et des pratiques? À l'échelle mondiale, l'émergence d'une communauté qui ne serait pas seulement inter-étatique, mais inter-humaine en quelque sorte, est une idée à la fois simple et dérangeante, évidente et contestée, suivant que l'on joue sur la parenté qui unit les hommes ou sur la singularité qui différencie chaque communauté étatique. C'est une phrase que je cite en la tirant de l'ouvrage publié aux Archives de philosophie du droit, sous votre direction, Monsieur le Président, « Mondialisation entre illusion et utopie ». Je dirais qu'une telle idée brouille en tout cas la différence qui fut évoquée par notre regretté confrère René-Jean Dupuis entre la communauté, produit naturel, d'une solidarité de base spontanément ressentie, et la société, fruit de la volonté, exigeant une mise en œuvre consciente et des normes juridiques pour la garantir. Les interdépendances sont en effet devenues si fortes que ces deux catégories sont désormais enchevêtrées. La volonté de vivre ensemble, unie par des valeurs communes, pouvant trouver appui à l'échelle mondiale sur la peur des risques planétaires, nucléaires, mais aussi écologiques, sanitaires, économiques ou financiers, qui créent une solidarité mondiale que l'on commence à ressentir spontanément, au fond, comme habitant de la même petite, toute petite planète. Mais pour être acceptable, cette communauté devra marquer le dépassement du relativisme, mais sans pour autant imposer un universalisme qui serait uniformisant. Et c'est peut-être là, dans ce dépassement pluraliste, par-delà le relatif et l'universel, que se situe le rôle du droit. Si le droit n'est pas créateur de valeurs, il n'est pas neutre pour autant, car il contribue à nommer les valeurs et à normer les comportements humains par rapport aux valeurs. Alors, en nommant les valeurs, le droit leur sert de révélateur. Par exemple, en nommant certains comportements crimes contre l'humanité, eh bien, le droit international pénal fait apparaître l'humanité comme victime et comme valeur à protéger. De même, en proclamant l'égale dignité de tous les êtres humains, la Déclaration universelle des droits de l'homme exprime une conception nouvelle de ces droits, marquant l'indivisibilité de tout leur ensemble. Oui, mais alors du même coup, le droit rend plus visibles les antinomies. Dès 1963, le philosophe italien du droit Umberto Bobbio soulignait que les systèmes nationaux ne sont pas des systèmes éthiques unitaires, mais, disait-il, des systèmes à plusieurs valeurs. Et ces valeurs sont souvent antinomiques entre elles. Alors il avouait sa difficulté à dégager des critères pour résoudre les antinomies et retrouver une cohérence d'ensemble. Ce n'est pas clair du tout, disait-il. Et bien, c'est encore moins clair aujourd'hui, et particulièrement au plan mondial, où la superposition d'ensembles juridiques nationaux, régionaux et mondiaux semble vouer d'avance à l'échec toute recherche de cohérence, même en se limitant aux droits de l'homme, qui officiellement forment pour les Nations Unies un système cohérent. Eh bien, des divisions apparaissent, comme s'ils avaient, écrit un auteur, des natures presque opposées, au point qu'il soit impossible de les penser et de les appliquer ensemble. Et Michel Villet avait parfaitement résumé la question, avec une ironie d'ailleurs cinglante, en disant ceci: chacun des prétendus droits de l'homme est la négation d'autres droits de l'homme, et pratiqué séparément est générateur d'injustice. Alors, en somme, comme révélateur des valeurs, les systèmes de droit font surtout apparaître les incohérences qui les sous-tendent, et la mondialisation ne ferait que renforcer le grand désordre juridique du monde. Un désordre qui n'est pas seulement juridique. Il tient d'abord à l'anarchie des valeurs, dont Paul Valadier, l'ancien directeur de la revue Études, craint qu'elle nous condamne soit, dit-il, à un pessimisme de résignation, soit à un dogmatisme aveugle. C'est un risque qu'avait dénoncé depuis longtemps notre confrère Raymond Boudon, et dans son dernier livre, il invite encore à discerner, selon ses propres termes, l'universel du singulier et à dépasser la vision binaire. Telle peut être aussi la démarche du juriste, d'autant que le droit ne se limite pas à nommer les valeurs, il est aussi un instrument normatif et, comme tel, un processus transformateur. Car normer les conduites humaines, c'est au fond à la fois les guider et les juger. Comme le démontre Catherine Thibierge dans un texte tout récent des archives de philosophie du droit sur la norme, eh bien, la norme a en effet cette double vocation de permettre, dit-elle, le tracé, autrement dit de guider l'action, et de permettre la mesure en ce que la norme permet de juger l'action accomplie. Tracé et mesurer, deux termes qui donnent une force singulière au droit, y compris dans la sphère internationale. Alors il est vrai qu'en l'absence de gouvernement mondial, apparaît le risque d'une disjonction des deux fonctions. Beaucoup de normes internationales sont de simples outils de tracé, insusceptibles en tant que tels de fournir aux juges un véritable instrument de mesure. Je pense aux recommandations, aux avis, aux déclarations, résolutions, proclamations, etc. D'où la question qui sera au cœur de ma communication. Malgré ces insuffisances, le droit peut-il néanmoins jouer un rôle pour réduire le désordre et contribuer ainsi à l'émergence d'une communauté mondiale de valeurs? Il me semble que la réponse doit être recherchée dans une double perspective. D'une part, ordonner les valeurs, donc guider par référence aux valeurs les choix d'action, et parfois, d'autre part, permettre de juger, donc de responsabiliser les acteurs dans l'exercice de leur pouvoir. D'abord, ordonner les valeurs. Au niveau national, eh bien, l'ordre juridique est hiérarchique. Et la hiérarchie est affaire de choix politique. Elle est légitimée par le principe de souveraineté nationale au double sens d'indépendance et de puissance, ce que rappelait encore Michel Tropper récemment dans les cahiers du Conseil constitutionnel. Mais au niveau mondial, la transposition est difficile, car les choix de valeur ne sont ni débattus devant un Parlement, il n'y a pas de souveraineté et indépendance, ni garantis dans leur mise en œuvre par un gouvernement mondial, pas de souveraineté, puissance. En fait, les choix sont négociés au gré des États, selon leur propre vision. Alors, en attendant que s'organise l'oligopolarité, qui a été évoquée récemment, comme solution moins pire que les autres, par notre confrère Jean Béchler, dans son article « Souveraineté et mondialisation », eh bien, en attendant, les normes juridiques se multiplient. Et la prolifération s'accompagne de leur fragmentation verticale et horizontale, selon des ensembles qui ne sont ni totalement autonomes, ni parfaitement intégrés. Car la notion internationale de jus cogens, de normes impératives, est sans doute trop incertaine dans sa définition et trop rare dans ses applications pour véritablement ordonner l'ensemble. Cette fragmentation accentue, me semble-t-il encore, le constat, l'analyse qu'avait fait depuis longtemps déjà notre confrère Prosper Veil, de la normativité relative du droit international, une analyse très critique déjà. Or, cette fragmentation entraîne plus encore aujourd'hui la pluralité des échelles de valeur. Selon que l'on parle de crime à vocation universelle ou de droit de l'homme, l'échelle sera différente. Et elle varie encore dans le domaine des biens. Je pense aux biens culturels, mais aussi aux biens naturels, domaine où la notion de biens publics mondiaux semble avoir peut-être pris le relais de celle plus ancienne de patrimoine commun de l'humanité, au fond pour exprimer la même idée, celle d'une solidarité transnationale et transtemporelle. On aurait donc pluralité des échelles de valeur. Alors, s'agissant des crimes, bien, la hiérarchie elle est traduite par l'adjectif imprescriptible, qui exprime l'idée que les crimes à vocation universelle, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, peut-être demain ou après-demain, les crimes d'agression, seraient au sommet d'une échelle de gravité implicite. Mais en même temps, on observe la résistance des droits internes. Ainsi, en France, nous n'admettons pas l'imprescriptibilité des crimes de guerre. Et ailleurs dans le monde, la gravité de ces crimes internationaux ne se traduit pas nécessairement par la gravité des peines. On sait en effet très bien que la peine de mort reste en vigueur dans de nombreux États pour les crimes, disons, « ordinaires », entre guillemets, alors qu'elle est désormais exclue par le droit international pour les crimes à vocation universelle. Et même en droit international, on observe des hésitations. Et les tribunaux pénaux internationaux ont eux-mêmes renoncé, après avoir fait plusieurs tentatives, à dégager une hiérarchie entre les différents crimes à vocation universelle. Cela étant, en matière de droits de l'homme, la question est encore plus délicate. Car c'est l'idée même de hiérarchie qui pose problème. La Déclaration universelle avait proclamé tous les droits avec la même force. Et le principe de leur indivisibilité, quelle que soit la nature, civile, politique, économique, sociale ou culturelle, qui a été rappelé d'ailleurs en 1993 lors de la conférence de Vienne, ce principe semble exclure toute hiérarchisation. Et pourtant, les instruments conventionnels, je pense aux conventions européennes ou américaines des droits de l'homme, je pense surtout au pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques, en prévoyant des limitations qui varient selon la nature des droits protégés, semblent bien poser une sorte d'échelle de valeur. Alors au sommet apparaissent quelques droits dits indérogeables, c'est-à-dire des droits pour lesquels aucune dérogation n'est admise, même en cas de guerre, même en cas de danger public exceptionnel menaçant l'existence de la nation. La formule se retrouve dans le pacte de l'ONU, mais aussi dans les conventions régionales. Alors, quels sont ces droits indérogeables ? La liste comprend les interdictions de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, celle de l'esclavage et des expulsions collectives. Et puis le pacte des Nations Unies ajoute encore une interdiction, celle d'imposer à une personne une expérience médicale ou scientifique sans son consentement, et une obligation, celle de reconnaître en tout lieu la personnalité juridique de chacun. En revanche, le droit à la vie qui est indérogeable au sens indiqué, est néanmoins assorti d'exceptions. La peine de mort, la légitime défense en sont les exemples les plus connus. Autrement dit, précieuse, certes, la vie ne serait pas la valeur la plus précieuse. Quant aux autres valeurs, alors, je ne vais pas les énumérer toutes, le droit à la liberté d'aller et venir, le respect de la vie privée et familiale, la liberté de pensée, conscience, religion, liberté d'expression, le droit de propriété, eh bien, leur protection est assurée, mais par le jeu d'exceptions, elles se trouvent limitées est limitée encore plus par la notion très large de restrictions nécessaires dans une société démocratique. Toutes ces limitations ont d'ailleurs un avantage, c'est qu'en permettant des marges nationales d'appréciation, elles préservent, je dirais, un certain pluralisme au sein de la même hiérarchie. En somme, seule la liste des droits qui sont à la fois indérogeables et à protection absolue, sans exception ni restriction, exprimerait, et là je reprends la formule du secrétaire général des Nations Unies à la conférence de Vienne, il disait la quintessence des valeurs par lesquelles nous affirmons ensemble que nous sommes une même communauté humaine. Cette quintessence des valeurs, qu'il désigne aussi comme l'irréductible humain, eh bien, elle renverrait en somme à la notion même d'humanité, qui se retrouve ainsi au sommet tant de la hiérarchie des droits de l'homme que, implicitement, de la hiérarchie des crimes. Oui, mais l'apparition des biens publics mondiaux ouvre peut-être une voie vers une troisième échelle de valeur. Quand il a voulu nous faire comprendre cette notion issue de la science économique, mon collègue Roger Guénry au Collège de France a cité Victor Hugo. Il a cité Victor Hugo évoquant l'amour de la mère pour ses enfants. C'est dans Ce siècle avait deux ans. Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. Le vers de Victor Hugo, pour Roger Guénry, résumerait parfaitement à lui seul les caractéristiques du bien public mondial, dont l'archétype, nous dit-il, l'archétype serait la qualité du climat, car chacun en a sa part, c'est-à-dire qu'on ne peut exclure quiconque de son usage, et tous l'ont en entier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rivalité pour sa consommation. Ma consommation ne détruit pas et n'interdit pas sa consommation par quiconque. À première vue, ces critères, bien non rivaux et non exclusifs, sont utilisés principalement par le Programme des Nations Unies pour le développement et par la Banque mondiale, sont difficilement transposables au droit. Et pourtant, le terme émerge dans le champ juridique depuis une dizaine d'années, qu'il s'agisse du climat ou de la qualité de la santé. Et l'on pourrait être tenté d'y voir un nouveau processus dynamique pouvant créer peut-être une synergie entre le marché et les droits de l'homme, et plus largement encore, entre valeurs marchandes et non marchandes. Appliquée à la qualité du climat, la qualification de bien public mondial conduit en effet à introduire dans le droit de l'environnement un marché des permis d'émission de gaz à effet de serre, permis de polluer, dit-on parfois, oui, mais aussi permis fondés sur des quotas qui sont destinés à limiter la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, tout cela étant prévu dès 1992 par la Convention cadre de Rio et repris surtout de façon très minutieuse et très technique en même temps dans le protocole de Kyoto en 1997. Donc l'idée de synergie se ferait là entre le marché des permis et le droit de l'environnement. Appliquée à la santé, la même qualification créerait une synergie, mais par une sorte de dynamique inverse. Car le fait de qualifier la santé de bien public mondial a amené, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, à admettre pour certains médicaments des licences obligatoires qui limitent la logique du marché et qui ont d'ailleurs entraîné toute une évolution du droit des brevets à partir de la conférence de Doha en 2001. Il reste qu'en l'absence de gouvernement mondial, cette pluralité des échelles de valeur risque de transférer les choix essentiels, qui sont pourtant des choix de nature politique, aux économistes et aux juristes. Dans le champ juridique, ces choix sont d'autant plus difficiles, me semble-t-il, qu'ils paraissent relever de deux modèles, deux visions de l'ordre juridique. D'une part, un modèle qu'on pourrait appeler universaliste pur, qui tente de transposer au fond dans le champ international la vision traditionnelle d'un ordre hiérarchique et stable, selon des processus qui seraient des processus de subordination, et puis d'autre part, un modèle qu'on peut appeler pluraliste, beaucoup plus complexe, mais peut-être plus acceptable politiquement, car il tend à concilier les valeurs par un processus de coordination qui suggère l'idée d'un ordre qu'on pourrait appeler interactif et parfois même évolutif. La difficulté, c'est qu'en pratique, quand il s'agit de responsabiliser les acteurs, eh bien, les deux modèles se combinent, s'enchevêtrent peut-être. Le modèle universaliste inspire plutôt l'attribution de la responsabilité en droit international pénal, alors que le modèle pluraliste suggère sans doute les formes de responsabilité différenciées que l'on commence à voir apparaître pour les États et parfois pour les entreprises. Donc j'en viens à ce qui pourrait être le deuxième aspect dans cette prospective sur le rôle du droit, non seulement ordonner les valeurs, mais responsabiliser les acteurs. Je dirais en effet que si le rôle du droit dans l'émergence d'une communauté mondiale de valeurs n'est pas de créer les valeurs, mais de contribuer à les ordonner, il est aussi, en cas de transgression de ces valeurs, de responsabiliser les acteurs. Mais comment transposer la notion de responsabilité du niveau national au niveau mondial, non seulement dans le domaine des crimes à vocation universelle, mais aussi en cas de violation des droits de l'homme ou en cas de transgression de ces valeurs qualifiées de biens publics mondiaux? Eh bien, les réponses à cette question sont d'autant plus fragmentaires et hétérogènes que la responsabilité est attribuée tantôt aux États, tantôt à des acteurs non étatiques de la scène mondiale. En s'agissant des États, il y a des années que la communauté internationale essaye de dégager des règles qui permettraient de codifier leurs responsabilités. Je me contente de résumer une question que certains de mes confrères connaissent beaucoup mieux que moi, pour dire qu'en août 2001, la Commission du droit international a adopté un dispositif qui est intitulé « Responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites », dispositif recommandé au gouvernement par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en décembre de la même année. C'est un dispositif qui repose en fait sur une notion, celle de violation grave d'obligations résultant des normes impératives du droit international général. Mais il laisse en partie irrésolue la question des contre-mesures, c'est-à-dire en fait la question clé, la question des sanctions. Du moins, ce dispositif consacre-t-il un régime de responsabilité pour atteinte aux intérêts d'un ordre public international qui vise toute la communauté internationale et qui pourrait préfigurer ainsi une future, sans doute encore lointaine, communauté mondiale, mais à la condition de transformer la recommandation en convention. Or, on sait bien que les États préfèrent le plus souvent s'en tenir à un cadre strictement bilatéral qui est déjà admis et limiter leurs responsabilités au cas où il y a un État opposé à un autre État. Et de son côté, la Cour internationale de justice reste prudente, même si l'on note une légère avancée en 2007 dans l'affaire du génocide en Bosnie. Aussi, les principales sources de responsabilité des États en cas de violation de valeurs universelles restent ce qu'on appelle les sources sectorielles, à commencer par les dispositifs relatifs aux droits de l'homme et puis plus récemment, les biens publics mondiaux. Mais en cas de violation des droits de l'homme, cette responsabilité des États, elle est assez limitée. Elle se limite aux États qui ont accepté le recours individuel et qui peuvent faire l'objet d'un contrôle international. Ce contrôle n'étant juridictionnel que dans quelques régions seulement. Nous connaissons bien en Europe la Cour européenne des droits de l'homme, l'Amérique latine connaît la Cour interaméricaine, mais au niveau mondial, Le contrôle n'est pas juridictionnel, c'est celui du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Il n'est pas juridictionnel, il prend toutefois un caractère qu'on pourrait dire contentieux, pardon pour le jargon juridique, quand il est déclenché sur plainte d'une victime, ou, mais c'est beaucoup plus rare, sur plainte d'un autre État. Parce que dans ce cas, la constatation du comité est définitive, elle est donc revêtue d'une autorité, pas l'autorité de la chose jugée, mais l'autorité de la chose constatée. En outre, le comité estime que l'État est tenu de prendre les mesures appropriées pour donner un effet juridique à ces constatations. Et il établit qu'il y a quand même environ 25% de ces décisions qui connaissent une suite satisfaisante. Ce n'est pas zéro, c'est 25%. Alors, ce que je trouve le plus intéressant, peut-être le plus étonnant en même temps, c'est que ce mode de contrôle a fait aussi une apparition dans le domaine des biens publics mondiaux, avec le dispositif d'observance du protocole de Kyoto, qui est destiné à faire respecter ces fameux quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Au fond, c'est un dispositif qui systématise le jeu bien connu de la carotte et du bâton. La carotte, c'est le mécanisme dit de prévention qui est mis en œuvre par un groupe dit de facilitation qui fournit des conseils aux États pour établir leur rapport concernant les émissions. Et puis le bâton, c'est un mécanisme dit de sanction qui est exercé par une chambre de l'exécution constatant la situation de non-conformité, on ne dit pas violation, on dit modestement non-conformité, mais indiquant des mesures à prendre qui sont des mesures précises, la réduction des quantités d'émissions et éventuellement une pénalité jusqu'à 30%. Il me semble que l'intérêt de cette méthode, c'est peut-être d'ouvrir la voie d'un renouvellement des mécanismes d'attribution de la responsabilité aux États, plus complexe, mais sans doute plus conforme à la protection de valeurs qui, pour être universalisables, ne peuvent toujours être mises en œuvre de façon uniforme. C'est la distinction que je faisais au début entre l'universel et l'uniforme. En intégrant une action en prévention, le dispositif de Kyoto s'adapte à une responsabilité conçue comme, ce sont les mots eux-mêmes, commune mais différenciée, car elle met à la charge des États des obligations différentes selon les groupes auxquels ils appartiennent. C'est une formule intéressante, mais à une condition. C'est d'améliorer l'engagement qui est nul à l'heure actuelle pour les pays en développement. Il est inexistant. Il faut arriver à faire entrer les pays en développement dans le dispositif, car on sait déjà que c'est leur comportement qui sera déterminant pour l'avenir. La Chine vient de dépasser les États-Unis comme numéro un de production des gaz à effet de serre. Donc l'idée d'une responsabilité commune mais différenciée est valable à condition d'être réajustée dans cette direction-là. Maintenant, quant aux acteurs non étatiques, je ne vais pas revenir sur les individus dont la responsabilité peut être mise en cause pour des crimes à vocation universelle, soit devant les juridictions internationales, soit devant les juridictions nationales, dont la compétence peut être elle-même élargie. C'est le fameux débat sur la compétence universelle. Mais s'agissant de la protection de valeurs qui sous-tendent les droits de l'homme et les biens publics mondiaux, on entrevoit une tendance nouvelle à responsabiliser les acteurs économiques déjà mondialisés, je veux dire par là les entreprises multinationales. Cette tendance s'exprime en droit interne et en droit international. En droit interne, c'est surtout venu du droit américain, qui a redécouvert, les avocats surtout, puis les juges américains, ont redécouvert dans les années 80 un très vieux texte de 1789, Alien Tort Claims Act, qui a été récemment validé par la Cour suprême, qui était d'abord appliqué à des dirigeants politiques, car c'est un texte qui permet de donner compétence aux tribunaux américains pour violation des droits de l'homme. Vous voyez la largeur, l'imprécision de ce concept. D'abord, on l'a appliqué à des dirigeants politiques, mais voilà que maintenant, la violation des droits de l'homme est imputée aussi à des entreprises multinationales. Il y a une affaire précise, l'affaire Unocal, dans laquelle la responsabilité de l'entreprise a été reconnue comme complice de la junte birmane pour avoir imposé des travaux forcés sur un chantier de gazoduc. Et puis les Américains ont d'autres textes, extraterritoriaux d'application quasi universelle, comme la loi Sarbanes-Oxley de 2002 sur la comptabilité des entreprises. Je dirais que ces textes sont moins exceptionnels, mais ils sont tout aussi difficilement acceptables juridiquement. À moins alors qu'il y ait un accord international pour assurer un minimum d'harmonisation, d'encadrement des conditions et de la mise en œuvre de ce type de responsabilité. Or, le droit international préfère des instruments plus doux, comme les codes de conduite ou les principes directeurs. On connaît bien les principes directeurs à l'intention des multinationales adoptés à l'OCDE en 1976, réactualisés en 2000. On connaît moins, parce qu'ils sont plus récents, les principes sur la responsabilité en matière de droits de l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises. Principes adoptés en 2003 par l'ancienne sous-commission des droits de l'homme des Nations Unies et maintenant soutenus par le Haut-Commissariat des droits de l'homme. Ces principes ont été réactualisés. On a désigné un rapporteur, un expert indépendant pour se charger de les faire progresser. Au fond, ce droit mou, soft law, il est de nature non contraignante, mais il peut néanmoins favoriser l'émergence de valeurs communes. Et il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le négliger non plus parce qu'il est parfois pris en compte dans des procédures d'arbitrage. Récemment, le Centre international pour le règlement des différends liés aux investissements, le CIRDI, dans une affaire qui concernait d'ailleurs des biens publics mondiaux à travers la question du droit d'accès à l'eau, a tenu compte des principes de l'OCDE. En ce sens, ce droit mou peut contribuer aussi à responsabiliser les acteurs. Mais il est temps de conclure. Et pour conclure, je voudrais souligner une chose. C'est que la technicité de ce débat juridique ne devrait pas occulter la signification éthique qui accompagne ces nouvelles formes de responsabilité. Car répondre à la victime du dommage ou de la faute dont les droits ont été lésés n'a pas le même sens, pas du tout le même sens, que répondre de valeurs universelles qui concernent l'humanité présente et à venir, les fameuses générations futures. Comme le suggérait Paul Ricoeur, il faut sans doute concilier deux visions de la responsabilité. La vision courte d'une responsabilité limitée aux effets prévisibles et la vision longue d'une responsabilité illimitée. Mais il ajoutait aussitôt, pourquoi faut-il les concilier ? Et la raison est importante. Il faut les concilier parce qu'une vision trop courte néglige les effets collatéraux, mais parce qu'une responsabilité illimitée, c'est un mot qui fait frémir les juristes, mais pas seulement les juristes, elle rendrait impossible l'action humaine. Et Ricoeur ajoutait, c'est bien un signe de la finitude humaine que l'écart entre les effets voulus et la totalité indénombrable des conséquences de l'action soit lui-même incontrôlable. Eh bien, je voudrais terminer sur ces mots, cette finitude humaine. Chacun de nous la perçoit dans son âme et dans sa chair. Et comment ne pas la retrouver au cœur des réponses juridiques ? Et pourtant, si imparfait soit-il, le droit reste, me semble-t-il, absolument indispensable pour que la communauté née de la mondialisation ne soit pas seulement subie sous l'empire de la peur, mais pour qu'elle soit pensée, pour qu'elle soit construite comme une communauté de destin. Merci.
Vous venez d'entendre Mireille Delmas-Marty de l'Académie des sciences morales et politiques prononcer une communication devant ses confrères. Sa communication s'intitulait « Le rôle du droit dans l'émergence d'une communauté mondiale de valeurs ». C'était le 7 juillet 2008 à l'Académie des sciences morales et politiques.